Je vous invite à tourner dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et on va lire du verset 1 au verset 5. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie. Avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. On va prier. Seigneur Dieu, c'est le sujet probablement le plus difficile à parler dans ces années, dans ces temps qu'on vit actuellement, Seigneur. Ça nous implique tous, moi le premier, Seigneur. On veut te demander de saisir cette grande vérité qu'est le péché. Parce qu'en saisissant le péché, on peut saisir à quel point tu es beau, grand, puissant. Et glorieux, Seigneur. Parle, touche à nos cœurs à travers ta parole. Amen. Au début des années 1900, le rédacteur en chef de la revue Times a cru bon d'adresser une série d'articles sur la civilisation. Et quoi de mieux par commencer par qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Et à un moment donné, il y a J.K. Chesterton, qui est un des philosophes chrétiens des plus réputés de cette époque, a écrit une lettre à l'éditeur. Et en recevant la lettre, l'éditeur a fallu qu'il relise trois fois la lettre pour savoir si c'était sérieux ou pas, là. Parce que c'était la plus courte lettre qu'il avait reçue. Et ça se lit comme suit. Intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? » Chesterton a répondu « C'est moi, sincèrement vôtre, J.K. Chesterton. » Le texte qu'on a aujourd'hui, c'est le sujet qu'on ne veut pas parler, le péché. Et pourtant, c'est le sujet qu'il faut qu'on comprenne. Texte difficile. La première fois que j'ai lu ça, évidemment, on s'attarde sur « Dieu est riche en miséricorde ». Quand on regarde le texte de plus près, il y a des belles expressions comme « fils de rébellion, enfant de colère ». Et ça ne fait pas nécessairement notre affaire de parler de ça. Et voici, on va traiter ce sujet. On va regarder le contexte, on va regarder l'état de l'homme dans les versets 1 à 3, et on va regarder l'Évangile. Et c'est pour ça que j'ai intitulé « Mais Dieu ». Deux premiers mots du verset 4. Contexte. Jésus est puissant et glorieux. En fait, Jésus, c'est le centre du premier chapitre dans son entier. Juste dans les 14 premiers versets, Jésus revient 15 fois. L'argument principal du chapitre, c'est qu'il est reconnaissant de ce qu'il a fait de nous. Il intercède. Il nous a placés en Christ. Et il veut qu'on s'assure, qu'on reconnaisse l'espérance qui est attachée à la gloire de Jésus, mais aussi à quel point que Dieu est important pour nous. Et que Dieu, qui a exercé avec puissance à travers la résurrection un ministère incroyable, mais c'est ce même Dieu qui agit en nous. Et le but de l'homme, à trois reprises dans le chapitre 1, célébrer sa gloire. Et l'emphase est mise sur la puissance de Dieu qui agit en nous, qui nous place en Christ. Et si on prend un texte grec original, il n'y a pas de division de texte. C'est un texte qui est continu. Et pourtant, on a mis un chapitre précisément à ce moment-là. précisément à la place où ils viennent de parler de la puissance de Dieu, et puis là, ça coupe pour vous. On laisse l'exaltation de la gloire de Jésus pour passer à un autre sujet, nous. La division qu'on en a fait, c'est une des meilleures dans toute la Bible. De la gloire de Christ à notre dépravation. Trois versets qui parlent de l'état de l'homme. Trois versets que n'importe quelle université en psychologie dirait ça fait augmenter mon taux d'anxiété. Ça, c'est pas bon. C'est la réalité quand même. Et vous? Une considération générale. Effectivement, il écrit aux Éphésiens. Il écrit à des croyants qui vivaient à Éphèse. Mais il s'assure qu'on comprenne que ça l'englobe pas juste les Éphésiens, parce qu'eux autres faisaient partie d'une tranche de la société qui était plus dépravée que les autres, ou plus pécheurs, ou plus... C'est une considération générale qui s'applique à n'importe qui. En fait, de l'exaltation de la gloire de Christ à considérer qu'est-ce qu'on est, ça m'aide à considérer comment que justement Jésus, dans le chapitre 1, est. Considérez comment vous étiez. Dieu est puissant et ça prend un tel Dieu pour répondre à notre besoin. Et regardons maintenant notre texte. L'état de l'homme sans Dieu, des versets 1 à 3. Je lance l'étude par ces mots qu'on voit au verset 2. Le cours de ce monde, le système de ce monde dans lequel on marchait. On marchait selon ce système qui nous impose un mode de pensée et nos comportements vont refléter ce système dans lequel nous vivons. On agit en accord avec ce système. Et Ravi Zacharias donne trois critères pour choisir une vision du monde. Et ce texte, à mon avis, quand j'ai lu le texte, ça me faisait penser à ces trois critères, parce qu'on voit la réponse, dans le fond, chrétienne, pour voir est-ce qu'on répond à ces critères pour dire qu'on a vraiment raison. Première question qu'il pose, avant d'adhérer à une croyance, comme en particulier le christianisme, est-ce que la description de l'être suprême s'harmonise avec ce que l'on connaît de Dieu? Est-ce que ce système donne un diagnostic profond de la condition humaine et la solution la plus adéquate à ce diagnostic? Est-ce que c'est la meilleure explication à la fois de l'origine et de l'histoire? Et aujourd'hui, on se concentre sur les deux premières questions. La description que le christianisme fait de l'homme, et ensuite de ça, on va regarder c'est qui ce Dieu? Diagnostic de l'homme. Pour vous, vous étiez mort. Il est certain que si on ne s'entend pas sur la condition de l'homme, on ne pourra jamais s'entendre sur la solution. Et il n'y a pas d'ambiguïté, Paul est assez clair, direct et précis, nous sommes morts. Et pourtant, il nous dit que malgré qu'on est mort, nous marchions. Et donc, on peut poser la question de quel genre de mort est-ce qu'il parle? Des zombies spirituels? On sait qu'il parle d'une mort qui est spirituelle. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pour vous, vous étiez morts. Vous êtes chrétien, c'est quelque chose qui était avant. Vous étiez. Vous n'êtes pas chrétien, alors le passage se lirait comme ça. Pour vous, vous êtes morts. Parce que vous n'êtes pas en Christ. Mais qu'est-ce que la mort? La mort, ce n'est pas simplement la non-vie, la non-existence. La mort, c'est l'inhabilité de répondre à un stimuli. Et si vous avez vu un mort, vous pouvez sauter dessus, vous pouvez faire n'importe quoi, mais une fois qu'il est mort, il répond à aucun stimuli. Mais aussi, c'est que ça souligne l'absence de communication avec ce qui est vivant. J'ai perdu mon père. Quand il était sur la table, là, à l'hôpital, là, je pouvais compter n'importe quelle histoire, là, ça ne change rien. Je ne peux pas communiquer avec lui. Pas de stimuli, pas de communication, pas de reproduction, pas de vie. Mais une mort spirituelle est qualifiée dans notre texte par rébellion et colère. Sans Christ, on mérite la colère de Dieu. Et c'est à ce point-là que ça devient pas populaire. Par nature, nous sommes des enfants de colère. Ça souligne la participation active à une vie de péché. Par nature, je vais faire ce que je suis. On a un penchant naturel pour la désobéissance. Moi, je n'ai pas montré à mes enfants à mentir ou à faire des choses de mal. Par nature, ils font ce qu'ils sont capables de faire. Un jour, ils vont mentir, ils vont voler, ils vont faire plein de choses qui, je ne suis pas obligé de lui montrer. C'est naturel en nous. On le fait par nature. Et la Bible nous donne deux termes en ce qui concerne le péché. Le premier sens, c'est le concept de manquer le but, manquer la cible. Et l'image qu'on apporte souvent, c'est l'archer qui tire la corde de son arc, qui vise une cible, puis qui la manque. Mais aussi, c'est que c'est un terme qui est utilisé pour montrer que c'est quelqu'un qui fait délibérément le contraire de ce qui sait être juste et bon. Et le point ici, c'est que dans ces deux termes, la Bible veut nous montrer qu'on est pécheur par nature, et donc, ce n'est pas parce qu'on fait un comportement qu'on est pécheur. Mais parce qu'on est pécheur, on fait des péchés. L'erreur, ce n'est pas juste la transgression. Il faut comprendre qu'on est pécheur parce que on fait des péchés. L'offense, ce n'est pas seulement une transgression, c'est une intention. Ce n'est pas juste une violation de la loi, mais c'est une disposition de cœur. C'est ce que nous sommes. Ce n'est pas juste le problème des gestes ou des comportements. Et si vous me permettez de donner cette illustration, on raconte une histoire de deux frères qui étaient dans un petit village et qui étaient vraiment mauvais, c'est le moins qu'on peut se dire. Ils volaient, ils ont tué, ils vendaient de la drogue, tu sais, tout là. Et à un moment donné, un des deux frères qui décède. Et donc, le frère du défunt essaie de trouver un pasteur, un évêque qui va pouvoir prononcer l'homélie ou la prédication pour la messe ou le culte quand il est décédé, avant de l'enterrer. Et finalement, il tombe sur ce prédicateur. Puis il dit, je vais te donner un gros montant, ce que tu veux, à une condition. Si tu dis ou tu réfères à mon frère comme étant un saint. Le pasteur pense à son affaire. Il dit, OK, il dit, pas de problème. Fait que le jour vient, il l'enterre, puis à un moment donné, il dit ses mots. Il dit, la personne qu'on enterre ici aujourd'hui, peut-être que vous êtes concerné, était un voleur, un violeur, un menteur, quelqu'un qui fraudait. Et toutes les choses inimaginables qu'on peut faire négativement, il les a fait. Mais comparé à son frère, c'est un saint. » Et donc, le point que le pasteur voulait souligner, c'est que c'était l'attitude. L'attitude de ce frère qui était pire que le comportement en tant que tel. C'est ce qu'on est. Ça, c'est en passant l'histoire, je n'ai pas validé si c'était vrai. Mais le péché, ce n'est pas seulement, dans le contexte de Éphésiens ici, le péché, ce n'est pas seulement un acte ou un comportement, mais c'est l'inhabilité à faire quelque chose, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu. Le péché, c'est l'échec de rendre gloire à Dieu. Romains 1 souligne avec brio ce fait. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, alors ils se sont fait des idoles. Le péché, ce n'est pas juste un acte ou un comportement, c'est faire défaut à quelque chose. John MacArthur nous dit ceci. Nous tous comprenons qu'un voleur est un pécheur, et un meurtrier est un pécheur, et un violeur est un pécheur, et un menteur est un pécheur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous sommes tous inclus dans cela. Mais écoutez-moi, le péché a beaucoup plus à faire avec ce que vous ne faites pas que ce que vous faites. Vous avez saisi cela. Le péché n'est pas vraiment une question de ce que vous faites, mais de ce que vous ne faites pas. C'est que vous ne venez pas à la gloire de Dieu. Et ça soulève beaucoup de questions. À commencer, est-ce que l'homme est libre de choisir pour Dieu? Est-ce que j'ai cette volonté libre, ce libre arbitre, de choisir Dieu? Quand on lit Éphésiens ici, chapitre 2, celui qui donne la plus belle explication, c'est probablement Jonathan Edwards. Et quand on lit son commentaire sur ce sujet, on a l'impression de lire Éphésiens chapitre 2. Et voici son explication. Le problème n'est pas avec la volonté, puisque la volonté est tout simplement l'inclinaison de l'esprit de choisir ce qu'il juge le meilleur. Le problème est avec la nature morale de l'homme, qui est opposée à Dieu, avec des motifs pécheurs qui découlent de cette nature corrompu. La Bible parle de la volonté qui trouve son siège dans notre cœur, ce qu'on est. Jérémie 17, verset 9 nous dit que notre cœur est tortueux, qui est méchant, qui est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. On est malade, on est incurable, on est dans nos péchés morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour utiliser un langage comme ça, nous sommes morts, il s'est passé quelque chose. Et l'explication monte à Genèse chapitre 3. Adam, Ève, qui ont fait un péché, ils ont tombé. Puis là, on a perdu quelque chose à ce moment-là. Il y a un commentateur qui disait, nous avons perdu ce désir originel pour Dieu. Un autre texte d'une importance dans ce sujet, c'est 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous sommes pris dans notre chair, dans un système condamnable. On choisit plein de choses dans la vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas choisir des choses. La volonté va choisir ce qui, pour elle, semble être le meilleur. Il y a plein de choses que je peux choisir. J'aime les bananes, j'aime pas les bananes. J'aime, tu sais. Puis pour moi, je vais choisir ce qui, pour moi, me semble le meilleur. Mais dans une nature qui est pécheresse, ce qui nous semble le meilleur pour nous, ce qu'on aime, ce vers quoi on va incliner nos décisions, ça va être le péché. Et le texte donne deux termes pour souligner ça, faute et péché. Et les deux sont au pluriel, ce qui souligne notre totale, ce qu'on appelle dépravation, notre immoralité, ce qui est le résultat de ce qu'on est par nature, pécheur. Historiquement, on a donné le nom de dépravation totale, ou totale inhabilité, incapacité, ou on commence à parler de radicale dépravation. Non pas qu'un non-croyant va faire tout en son pouvoir pour faire et choisir ce qui est mal, mais il faut quand même avouer que le potentiel est présent. Le critère. Est-ce un bon diagnostic de l'humain? Et c'est ce qui a amené un philosophe à dire que le péché est la seule doctrine, enseignement empirique dans la Bible. C'est-à-dire, le seul enseignement chrétien qu'on peut mesurer. On ne se trompe jamais. Il y a un taux de satisfaction de 100%. Péché égale mort, on peut le mesurer. Tous sont pécheurs, tous vont mourir. Sigmund Freud, auteur de la psychanalyse, qui était médecin de formation, qui lui considérait l'homme comme un animal qui était régi par des pulsions qui, elles, en passant, sont inconscientes. Et, entre autres, il disait qu'il y avait deux sortes de pulsions, une pulsion de vie et une pulsion de mort. Il n'a pas eu le temps de développer, il est mort avant, la pulsion de mort. Mais ce qu'il en dit, ça se résume à peu près comme ceci. Il y a quelque chose dans l'homme qui a tendance à s'autodétruire, à avoir un goût pour la mort. Et malgré son aversion pour la religion, malgré le fait qu'il rejetait Dieu, pour lui, c'est une schizophrénie dans notre cerveau, une défaillance du cerveau, même si on veut rejeter le péché, il faut l'expliquer. Et le modèle biblique est la meilleure explication de ça. On le voit à l'œil nu. Puis même un militant comme Freud, qui était loin d'être chrétien, arrive à cette conclusion-là. C'est une conclusion humaniste de ce qu'est le péché, une tendance, une inclinaison à aller vers les choses de la mort. Ah, le péché, ça semble très bon sur le coup, mais éventuellement, ça va nous amener à la mort. Spirituelle, mort physique. Le sujet de la colère de Dieu, c'est pas simplement quelque chose que le prédicateur en avant utilise pour manipuler l'auditoire afin de créer une espèce d'émotion en nous pour que vous puissiez arriver à connaître Jésus là, puis Dieu. Là. La colère de Dieu, c'est quelque chose de réel. Écoutez bien ceci. Nous commettons des péchés parce que notre cœur est tortueux. Et en considérant la colère de Dieu, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on ne la prend jamais au sérieux. Et une des raisons, c'est parce qu'on ne prend pas le péché au sérieux. Un commentateur qui disait que le Dieu chrétien était trop grand, fallait le diminuer, à commencer par la colère envers nous. Et on diminue Dieu parce qu'on n'aime pas l'idée qu'il est en colère vers le péché. C'est un problème radical. Ça demande une solution radicale. C'est un appel à considérer qu'est-ce qu'on est. Georges Zemeck, dans un de ses livres, a donné une très bonne explication. Un petit peu longue, mais elle vaut quand même la peine qu'on la lise. Parce qu'elle résume le problème. À l'origine, la volonté d'Adam était libre de la domination du péché. Il n'était soumis à aucune force naturelle pour choisir le mal. Mais par sa chute, il a apporté la mort spirituelle sur lui et sur toute sa postérité. Il s'est ainsi plongé et la descendance entière dans une ruine spirituelle. Et il a perdu, à la fois pour lui et pour ses descendants, la capacité de faire des choix justes dans les réalités spirituelles. Ses descendants sont toujours libres de choisir. Chaque homme fait des choix partout dans la vie. Mais vu que la progéniture d'Adam est née avec des natures coupables, ils n'ont pas la capacité de préférer le bien spirituel au mal. Par conséquent, la volonté des hommes n'est plus libre, c'est-à-dire libre de la domination du péché. Comme la volonté d'Adam était libre avant la chute, au lieu de cela, la volonté des hommes est le résultat d'une dépravation héritée. Elle est dans l'esclavage de sa nature coupable. Je pense que je l'ai déjà raconté. Mark Stuart a raconté cette histoire d'un conférencier qui est allé dans une université. Et le sujet de la conférence était « Pourquoi il est bon de s'abstenir des relations sexuelles avant le mariage? » Et c'était pas une université chrétienne, la conférence n'avait pas pour but d'expliquer les valeurs chrétiennes. Mais après l'exposé, il y a un des étudiants qui était là, qui est allé le voir, puis il dit, je voudrais vous féliciter pour le courage avec lequel vous avez eu de venir présenter ça, ce sujet-là. Mais, soit dit en passant, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Toi, tu te dis libre, mais en réalité, tu te prives. Moi, je suis libre. Moi, je peux coucher avec n'importe quelle femme que je veux, mais toi, t'es pogné. Puis tu te prives. Le prédicateur, j'espère avec beaucoup de sagesse, lui a répondu, « Écoute, la question n'est pas vraiment de savoir avec combien de femmes je peux coucher. N'importe quel épée peut faire ça. La vraie question, c'est est-ce que tu peux arrêter? Parce que si tu ne peux pas arrêter, ce que tu appelles la liberté est en réalité l'esclavage. On peut mettre, là c'était les relations sexuelles avant le mariage, je vais vous raconter la même histoire en mettant la boisson, en mettant ce que vous voulez là. Éphésiens, sans ambiguïté. Pour vous, vous étiez morts. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon notre convoitise charnelle, nos exécutions, les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, mais Dieu, les deux plus beaux mots probablement qui n'ont jamais été prononcés à la fin d'un discours comme ça, mais Dieu, mais, c'est une conjonction. Ça suggère un lien avec ce qui précède, mais ça souligne aussi un contraste. Et dans le passage, on a les deux, mais Dieu. Considérez comment vous étiez, et maintenant on va encore une fois reconsidérer comment Dieu est. Martin Lloyd-Jones a dit ceci. Ces deux mots, mais Dieu, ont en eux-mêmes, dans un certain sens, l'entièreté de l'Évangile. L'Évangile parle de ce que Dieu a fait. Et on va se poser quatre questions. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi il l'a fait? Puis que dois-je faire? Qui est Dieu? Évidemment, je n'entrerai pas dans tous les détails de ça, et je vais me concentrer simplement sur trois aspects de Dieu qu'on peut voir dans le texte de Éphésiens. Deux tests qu'on a vu. Le premier, on l'a vu. Le deuxième, on s'en vient là. Quelle est la condition de l'homme? Et est-ce que le christianisme répond à ça? Et maintenant, est-ce que la description que le christianisme fait est en accord avec ce qu'on dit de Dieu? Dieu est souverain. Éphésiens 1, 19. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force? Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il gouverne sa création. Il n'y a rien dans l'univers qui se produit sans sa permission. Rien. Rien est hors de contrôle. Deuxièmement, et je m'attarde surtout sur celui-là, Dieu est saint. La sainteté de Jésus-Christ, la sainteté de Dieu, dans les Écritures, a deux sens. On connaît le premier. Il y a le sens de pureté morale. On est habitué de se faire prêcher ça. Dieu, il est saint, et vous serez saint parce que je suis saint. Puis là, on se lance dans la pureté morale. On comprend ce concept-là. On comprend ça. Et j'aimerais vous donner un mot de vocabulaire aujourd'hui important. Parce que la théologie, c'est pas pour ceux qui sont assis sur les bancs d'école, c'est pour vous, là. C'est pas pour l'élite intellectuelle qui parle des choses abstraites. Un mot, transcendance. Dans un sens premier, en quelque sorte, ça réfère à la majesté transcendante de Dieu. Ça veut dire qu'il appartient à un autre genre. Transcendance veut dire voler plus haut. Et quelqu'un qui donnait les illustrations suivantes, c'est il n'a aucun compagnon, aucun partenaire avec qui il peut courir. Il est plus haut. Il va plus loin que toutes les autres. C'est l'Himalaya. C'est le seul attribut de Dieu qui est mentionné trois fois de suite. Saint, saint, saint. Le concept, Dieu est saint. La répétition, il est saint. Et encore une fois, il est saint. Pur, pur, pur. On ne parle pas ici simplement du fait que Dieu est bon. Et quand on parle de la sainteté, on doit comprendre que Dieu, il est dans un autre genre, c'est-à-dire qu'il est séparé de tout ce qui n'est pas saint. Il y a une limite. Tout ce qui n'est pas saint moralement, il est séparé de ça. Il ne peut pas tolérer le péché. Combien de fois Adam a péché avant qu'il soit jeté du jardin d'Éden? Une. Il n'y a rien de plus haut que la sainteté de Dieu. Il n'y a personne qui est saint comme lui. Troisième caractéristique qu'on voit de Dieu dans le passage découle de la sainteté de Dieu. Dieu est rempli de colère contre le péché. Ça découle du premier, à savoir que Dieu, il est saint. Sa sainteté s'élève contre tout ce qu'il n'est pas, tout ce qui s'oppose à sa sainteté. Il est saint, je ne le suis pas. Et sa colère est donc juste. Voici votre Dieu. Mais Dieu est amour. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour de Dieu. Parle-moi pas d'un Dieu en colère. Les arguments qui reviennent à ce que je retiens dans toutes les religions, c'est aimer ton prochain, et Dieu doit aimer. Dieu est amour. Sa colère est incompatible avec l'amour, donc il ne peut pas être en colère. Il est amour, il doit me pardonner. C'est sa job. Et en Occident, les gens pensent à l'amour de Dieu. Que l'amour est assuré. Dieu a tant aimé le monde. Il doit me pardonner. Oh, j'ai commis trois, quatre petites fautes, mais Dieu va me pardonner. Qu'est-ce que Dieu a fait et pourquoi il l'a fait? J'aimerais, juste avant de lire la citation, dire ceci. Une vérité dans l'Évangile qui revient en force. Dieu aime les pécheurs. La croix, c'est la suprême démonstration de ça. Galates 2:20. Et si je vis, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains 5:8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean 4:10. Même chapitre qui dit que Dieu est amour. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verset, probablement le plus clair, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le mot « monde » a toujours une connotation négative. Ça ne démontre pas simplement, ça ne parle pas juste du monde que Dieu a créé, mais ça qualifie le monde pécheur séparé de Dieu. Don Carson dit ceci, « Quand Jean nous dit que Dieu aime le monde, dans Jean 3,16, c'est loin d'être une approbation du monde. C'est le témoignage au caractère de Dieu. L'amour de Dieu doit être admiré, non pas parce que le monde est si grand, mais parce que le monde est si mauvais. L'amour de Dieu est si grand parce qu'on est mauvais. Il y a un philosophe qui est venu me voir au travail, puis à un moment donné, il me dit, là, j'ai une question pour toi. Il dit, toi, là, tu trouves ça juste, là, tu trouves ça, c'est correct, là, tu crois en ça, toi. Que, mettons qu'on est gentil, une vie de 100 ans. Le gars a fait des petites fautes, a commis des petites affaires, là, mais tu sais, il a fait des péchés, là. Puis il va être condamné toute l'éternité pour une vie de 100 ans. L'éternité, 100 ans. Ah, ma réponse fut simple. Tu commences comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est avec raison aussi que Jean, dans son épître, par deux reprises, déclare que Dieu est amour. Et cet amour de Dieu n'est pas la conséquence de l'acte qu'il a fait. C'est ce qui le motivait. Et le point de tous les textes qu'on a cités, c'est que son amour l'a poussé à envoyer son Fils. Et on a tort de conclure que l'amour et la colère de Dieu, c'est deux choses qui s'opposent. Il suffit de lire Jean chapitre 3, où ce qui nous parle de cet amour, car Dieu a tant aimé le monde. Et on lit quelques versets plus loin au verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui ne se confie pas au Fils ne verrait pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et le texte qu'on a, en quelques versets, l'amour de Dieu, mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, et pourtant dans les mêmes versets, nous sommes qualifiés de fils de colère et fils de rébellion. Plusieurs textes mettent les deux ensemble. L'amour est pratiquement jamais renié. On est tous en accord avec ça. La colère de Dieu, par contre, trouve beaucoup d'opposants. Mais l'Écriture ne dissocie jamais les deux. C'est pas quelque chose d'abstrait, d'impersonnel, une métaphore. C'est personnel. C'est dirigé vers des individus. On est tous impliqués dans ça. On a tenté de dire que la colère était une métaphore, une image, parce que Dieu est amour. Je pense à C.H. Dodd, des années 1940, il a écrit un gros article où il a changé les mots, ce que Dieu est en faveur de nous quand il envoie son Fils, pour placer le concept que Dieu est tellement amour que la colère doit être une métaphore, une image pour nous faire comprendre quelque chose. Et un auteur australien, Leon Morris, a répondu à ça, et ça a pris 10 ans avant qu'il réponde. Et dans une conférence qu'il a faite, il a développé le concept de colère de Dieu et de l'amour de Dieu. Il dit, ne comprenez-vous pas que Dieu est en colère, mais que Dieu nous a aimés? C'est ça l'Évangile. À la fois, Dieu est contre nous, mais à la fois, il est favorable à ceux pour donner son Fils. Dieu est l'Évangile. Et le problème qu'on rencontre, c'est la définition de l'amour que l'on donne et qu'on cherche à appliquer à Dieu. L'amour trouve toujours un objet. Et selon comment que je me sens en fonction de l'objet, je vais évaluer pour voir si l'objet est aimable. Et on aime plein de choses, mais ça fluctue selon notre humeur du moment. Je peux dire plein de choses. J'aime travailler le bois. J'aime ma femme. J'aime les bananes. Il faut juste faire attention pour pas que ça revienne toujours trop souvent dans la même phrase. Surtout si votre femme est présente. On parle de l'amour de façon différente et on comprend ça. J'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime les... Tu sais, on comprend ça. Et la Bible fait la même chose en considérant l'amour de Dieu. Encore une fois, Don Carson donne 5 marques d'amour. L'amour particulier intra-trinitaire. Dieu qui aime le Fils qui aime Dieu. L'amour providentiel de Dieu. Il fait, sur le bon et le méchant, il fait venir la pluie, les récoltes. La Bible parle aussi de l'amour de Dieu qui sauve, qui est dirigé vers un monde ayant chuté. C'est notre texte, c'est les textes qu'on a lus tantôt. L'amour qui désire, qui soupire pour que le méchant... Celui qui est séparé de Dieu se tourne vers Dieu. Quatrièmement, l'amour de Dieu particulier, efficace, choisissant, qui est dirigé vers ses élus. Éphésiens chapitre 1. C'est un amour qui est inconditionnel. L'amour paternel, conditionnel, qui est basé sur l'obéissance. Et le point que je voulais souligner avec ces 5 marques d'amour, c'est que Dieu aime d'une manière étrangère à notre expérience. Et quand on regarde un passage dans la Bible, avant de l'interpréter, assurons-nous de comprendre de quelle marque d'amour, il y en a peut-être d'autres, là. C'est 5 quand même importantes. L'amour de Dieu a des différences fondamentales d'avec l'amour humain. Nous avons tendance à dissocier les attributs de Dieu qu'on en a vu un petit peu tantôt, et de traiter l'amour de Dieu en isolation, en isolant sa sainteté, sa justice, sa souveraineté. Mais c'est une erreur. Tous les attributs de Dieu sont consistants et dépendants les uns des autres. Son amour est toujours saint. Sa sainteté est toujours aimable. Sa souveraineté est juste. Sa justice est toujours souveraine. On ne peut pas dissocier ce qu'est Dieu de ses attributs. C'est comme un diamant. L'amour de Dieu, les 5 marques d'amour, c'est comme 5 faces d'un diamant. Si on enlève une face de diamant, il nous manque quelque chose. On ne comprend pas complètement l'ampleur de l'amour de Dieu. J'ai résumé d'une autre façon les 5 marques d'amour. Dieu s'aime merveilleusement. Dieu aime sa création avec grande bonté. Dieu désire profondément la conversion des pécheurs. Dieu aime ses élus d'une façon inconditionnelle. Dieu répand sur ses enfants, obéissants, un amour délicieux, délectable. Gardons la balance de l'amour de Dieu qui n'exclut pas la colère de Dieu. Ce qui fait que le péché est péché, c'est qu'il est dirigé premièrement contre Dieu. Mais Dieu, riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Je lui ai dit, que dois-je faire? Que dois-je faire pour mériter l'amour de Dieu? Dans le texte, là, est-ce qu'il y a un élément qui dit « voici ce qu'il faut que vous fassiez » Non, il n'y en a pas. C'est ce que les théologiens ont qualifié « sola fidei », qui signifie « à la foi seule ». Les prochains versets qu'on va analyser, c'est par la foi seule. Il n'y a rien qui peut faire que je mérite la grâce ou la faveur de Dieu. Sans Christ, nous sommes morts. Mais Dieu, dans son amour, a donné Jésus-Christ. Ce Dieu qui, à la fois, est en colère contre qu'est-ce qui est immoral. C'est nous. On est morts. On est séparés. Mais la même puissance qui a agi en ressuscitant Jésus, c'est cette même puissance qui peut agir en vous ou qui agit en vous. Implication énorme dans la vie d'un croyant. C'est un message qui a zéro application. Il n'y en a pas. Je ne me suis pas cassé la tête. Il n'y a pas d'application dans le passage. Il n'y en a pas. Je ne veux pas mettre un péché relié au fait qu'on est pécheur, là. Vous êtes capable de le mettre. Vous savez ce qui agit en vous que vous devriez changer. L'objectif d'Éphésiens dans ces passages était de considérer qu'est-ce qu'on est réellement. Voici l'application première des trois premiers versets. Comprenons qu'est-ce qu'on est réellement. Deuxièmement, regardez Jésus-Christ. Mais Dieu nous a aimés d'un grand amour. Voici l'application. Regardez à Jésus. À qui? Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce texte. Ce texte qui nous dépeint un portrait très sombre de l'humanité. On est pécheurs. On ne te rend pas gloire, mais tu as envoyé ton Fils. Tu nous as aimés pas juste d'un amour, mais de ce que tu qualifies d'un grand amour, Seigneur. Tu ne demandes pas moins la foi, c'est tout. Nos vies. Donne-nous de te donner, même en tant que chrétien, Seigneur, nos vies, nos pensées, notre volonté, qu'on s'abandonne à toi. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a rien. Ô Seigneur, on pense à la croix. On voit rien de moins l'horreur de la croix. Et ça, c'est en train de nous dire que c'est comme ça que tu vois le péché. Et on veut te demander pardon, Seigneur, et merci de ce grand amour. Jésus-Christ, Dieu, qui est venu nous racheter. Amen.